Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Se soigner avec un remède issu de la phytothérapie, cuisiner nature et même rechercher des effets psychoactifs, les motifs d'utilisation, de consommation d'espèces végétales sont aussi nombreux que variés. Fleurs, graines, racines, feuilles. Depuis toujours, la pharmacopée traditionnelle a recours aux plantes, aux végétaux, préparés, transformés et administrés selon des savoirs spécifiques. Une large proportion des médicaments disponibles en pharmacie sont également produits à partir de substances actives de certaines plantes. À côté des bénéfices indiscutables des végétaux, existent également certains risques et ce sont de ces intoxications avec des plantes dont nous parlons aujourd'hui dans notre émission. Confusion entre plusieurs espèces ou simple méconnaissance, interaction avec un autre remède ou surdosage, consommation de toxiques par des enfants en dehors du contrôle parental. En fonction des plantes, le risque peut concerner certains organes, cœur, reins, appareil digestif et provoquer un malaise, de l'inconfort et dans les cas les plus extrêmes, un empoisonnement fatal. À côté des conseils en termes de prévention, nous allons aussi parler des symptômes, des signes qui doivent alerter, à qui s'adresser en urgence en cas d'ingestion douteuse, ce qu'il faut faire et aussi les gestes à éviter. Et bien sûr, démentir la fausse croyance selon laquelle tout ce qui pousse à l'état naturel serait bon pour la santé. Savoir réagir en cas d'intoxication. Avec nous, en studio, on retrouve le docteur Jérôme Langrand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service du centre anti-boisson de toxicovigilance de Paris. Et on retrouvera tout à l'heure en ligne de Metz, dans l'est de la France, le docteur Jacques Fleurentin, pharmacien président de la Société française d'ethnopharmacologie. On joindra aussi à Conakry le professeur Sartre Traoré, maître de conférences agrégé en pharmacognosie, chercheur à l'Institut de recherche et développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée, professeur Traoré qui est également maître de conférences au département des sciences pharmaceutiques de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.
Priorité santé sur RFI.
Alors le centre antipoison de Paris, docteur Jérôme Langrand, est-ce qu'il est possible de déterminer quelle proportion d'appels concerne précisément notre sujet du jour, les empoisonnements par les plantes, puisqu'évidemment votre service reçoit aussi des demandes pour des intoxications par médicaments, produits chimiques, produits d'entretien?
Oh oui, mais ça représente une bonne partie de nos cas, peut-être 5% on va dire de sur l'année, mais avec un gros effet saisonnier puisque il y a beaucoup plus de cas au printemps et à l'été quand les gens sont dehors et puis que les baies poussent hein, ou les fleurs poussent.
Centre antipoison de Paris, malgré tout, les gens s'empoisonnent avec des plantes à Paris. Quand on voit Paris, on imagine plus le béton et les grands immeubles, alors, pas forcément les champs et les forêts.
Alors nous, on s'occupe de l'Île-de-France, des Antilles et de la Guyane, donc vous voyez. Oui, effectivement, Paris intramuros, il y a aussi pourtant des cas d'intoxication et d'exposition à des plantes, hein, ça arrive fréquemment.
Alors, des appels, docteur Langrand, est-ce que ça se passe plutôt aussitôt après l'absorption ou plutôt c'est quand l'entourage ou la personne perçoit des symptômes?
Il y a les deux, mais souvent on nous appelle quand on s'est rendu compte qu'un enfant, le cas typique c'est quand même un enfant qui met à la bouche des feuilles, une baie, une fleur et, ou qui s'expose de cette manière-là. Et puis alors là on nous appelle dès que ça a lieu, quoi. Dans ce cas-là, les gens nous appellent soit directement, soit appellent le SAMU qui bien souvent nous rebascule l'appel puisque c'est de notre expertise que ça relève, on va dire.
Donc aux auditeurs qui sont en région parisienne ou dans les Antilles qui nous écoutent ou dans l'outre-mer, avoir le numéro du centre antipoison, ça peut être extrêmement pratique. Ce numéro, c'est lequel?
Ah ben, je ne peux pas vous dire le contraire. C'est celui de Paris, c'est 01 40 05 48 deux fois. Et sinon, vous allez sur le site des centres antipoisons français, vous trouvez le numéro du centre antipoison duquel vous relevez, quoi, ça dépend.
Qui répond au téléphone?
C'est des médecins, des pharmaciens, des infirmiers et qui répondent, qui sont formés en toxicologie médicale et du coup qui vont pouvoir vous répondre spécifiquement sur, vous donner de la conduite à tenir pour, en fonction de ce, que vous, de ce qui vient de se passer exactement. Donc, c'est des conseils personnalisés.
Personnalisés, ça veut dire qu'aussi, l'essentiel, c'est de connaître le produit incriminé. Comment on fait justement quand on a un enfant qui a grignoté une plante, on n'est pas forcément expert en biologie végétale ou une graine. Comment on fait pour déterminer, pour savoir exactement quel est le problème?
Si on ne sait pas, on est bien habitué au fait que les gens ne sachent pas. Donc si on ne sait pas, maintenant, bien souvent, on a un smartphone, on prend une photo, on nous l'envoie. Et comme ça, nous, ça nous permet de l'identifier. Quand nous, on n'est pas complètement sûr, on a même une liste, on a un système d'expertise avec des botanistes beaucoup plus experts que nous sur l'identification sur photo, qui nous donne un avis quasiment en temps réel. Donc quand les gens nous envoient les photos de la plante, nous on peut même se servir de ces experts qui sont, et je les en remercie, des botanistes qui nous aident de manière bénévole tout au long de l'année pour l'identification des plantes sur photo, et qui nous permettent d'avoir un niveau de précision dans les réponses apportées aux gens qui est franchement bon.
Il y a une information, il y a aussi, comme on dit dans les services d'urgence, peut-être une fonction de triage. Est-ce que ça veut dire que vos services, vos équipes vont aussi dire, par exemple, à des parents qui paniquent, calmez-vous et là, vous allez pouvoir traiter ça à la maison, ou à l'inverse, on file direct aux urgences pédiatriques?
C'est tout à fait notre rôle, c'est de donner la bonne prise en charge, personnalisée en fonction de la personne qui a été exposée, de la plante, de la quantité, de la voie d'exposition. Donc on va poser toutes ces questions-là et on va donner une conduite à tenir qui va être vraiment adaptée à la situation. Donc, si jamais il y a besoin d'aller aux urgences pour une surveillance, on envoie. Mais dans le cas des plantes et des expositions accidentelles, l'immense majorité des cas peuvent se gérer à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est lesquels envoyer aux urgences, lesquels peuvent être dangereux, quand est-ce qu'il faut y aller. Mais pour l'immense majorité, ça peut tout à fait se gérer à la maison avec les bons conseils adaptés à la situation. Et donc ça, c'est ce qu'on fait.
C'est vrai qu'on parle des plantes aujourd'hui. C'est un petit peu à part le domaine, par exemple, des champignons. Ce n'est pas notre sujet du jour parce que ça mérite une émission dans son entièreté. Pourtant, là, au niveau des champignons vénéneux, ce sont des cas d'urgence quand on absorbe des espèces un peu vraiment douteuses.
Vous savez, ce n'est pas si différent que ça. Le problème, c'est souvent la quantité. Vous voyez, un accident d'enfant qui croque une baie, qui croque une plante. Bon, c'est plus, enfin, ça, on a exactement les mêmes avec les champignons. Donc, et on fonctionne pareil. On se fait envoyer des photos, on fait identifier les espèces et on envoie aux urgences quand c'est nécessaire.
Alors, les conditions d'absorption, on comprend bien la quantité, c'est important. Il peut s'agir d'ingestion volontaire quand ce sont des enfants ou même des personnes qui ont des intentions suicidaires, ingestion volontaire ou accidentelle. Globalement, docteur Jérôme Langrand, si on parle des cas les plus graves, je ne fais pas dans le spectaculaire ou dans le catastrophisme, mais les cas les plus graves, c'est quelles plantes qui sont objectivement les plus dangereuses?
Les cas les plus graves, c'est quand on en mange beaucoup. Donc effectivement, quand un enfant mange une baie, croque une feuille, c'est rare que la quantité soit suffisante pour que ça soit un problème.
Elle ne mange pas tout le ficus.
Voilà, il s'arrête parce que ce n'est pas bon. Et donc on est un peu protégé par ça quelque part. Mais non, les circonstances que vous citez, suicidaires, toxicomanie, phytothérapie, ça fait que vous en prenez une quantité plus importante. Donc là, effectivement, il y a un risque. C'est pareil aussi pour les confusions alimentaires. On a vu ça, maintenant, il y a quand même une tendance à vouloir aller faire sa propre cueillette. Il y a des stages de survie où on vous apprend à identifier les plantes. Si vous vous trompez à ce moment-là, ça peut être très dangereux. Il y a des cas dramatiques comme ça qu'on dit.
Avec l'ingestion de quelle espèce de végétal ou pas forcément?
Un exemple récent qui a même fait de la presse, c'était lors d'un stage de survie, des gens qui apprenaient à identifier des plantes et qui se sont trompés. J'imagine qu'ils voulaient trouver de la carotte sauvage et qu'ils ont ramassé de l'oignon de safrané. Il y a eu un cas de décès. Vous voyez, donc une confusion alimentaire entre espèces, finalement, comme ce que vous venez de me dire sur les champignons. On croit ramasser un champignon et puis on se trompe parce que les champignons, ça se ressemble quand même beaucoup. Mmh. Et les plantes, c'est pareil. Sauf que la circonstance de cueillette est très classique pour les champignons, alors qu'elle est plutôt en vogue avec les plantes et elle est en croissante avec les plantes. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. La confusion avec des ours colchiques.
Ça veut dire qu'on ne part pas avec son smartphone en forêt, on ne s'improvise pas cueilleur du dimanche, comme on dit. Là, à la limite, il vaut mieux avoir un bon instructeur. Et là, en l'occurrence, vous le dites, il y avait un instructeur et il y a eu quand même confusion.
Exactement. Et alors, vous parlez de smartphone, je vous le déconseille même parce que moi, j'ai rien contre les applications d'identification des plantes, j'aime même bien ça personnellement, mais par contre ça n'a pas un niveau de certitude suffisant pour pouvoir en consommer. Pour pouvoir s'amuser à réfléchir si c'est telle espèce ou telle espèce, c'est super. Par contre, pour pouvoir être suffisamment fiable pour justifier le fait que vous puissiez en manger, en ingérer, en donner à votre famille, alors là vraiment, il faut éviter ça. On a des histoires malheureuses de personnes qui ont identifié des plantes avec leur smartphone, et puis, enfin, surtout des champignons d'ailleurs, mais que ce soit plantes ou champignons, c'est pareil, le smartphone, les applications ne sont pas assez performantes pour que ça puisse vous permettre d'en consommer.
Ça veut dire qu'on peut encore se tourner vers son pharmacien, docteur Langrand, aller présenter son panier de champignons et dire qu'est-ce que je peux mettre en omelette ou pas?
Ça, c'est un peu ce qu'on nous dit toujours, mais je crois que beaucoup de pharmaciens aujourd'hui sont eux-mêmes prudents parce que quand même, ça engage leur responsabilité de manière importante. Et puis, certains pharmaciens sont peut-être
formés,
ont peut-être entretenu leur expertise, on va dire, par rapport à leur formation initiale. Mais beaucoup de pharmaciens ont connu les plantes et les champignons quand ils étaient dans leurs études, et ensuite ils ont un peu perdu ça de vue. Donc les vrais spécialistes, c'est les sociétés de botanistes, c'est les vrais spécialistes, ça reste eux. Je pense que la majorité des pharmaciens maintenant sont un peu prudents en termes d'identification.
En termes de tendance, vous avez cité tout à l'heure justement la médecine naturelle, phytothérapie. Est-ce que vous observez une augmentation du nombre de cas liés justement à cette pratique, à ce recours à la médecine naturelle? Ou est-ce que ce n'est pas vraiment quantifiable?
Oui, on voit qu'il y a une tendance, mais c'est quelque chose qui se voit même en dehors des centres antipoisons. Mais bien sûr, on voit que les gens ont envie de faire leurs propres remèdes, mais de faire... effectivement, d'aller... se soigner avec des plantes, c'est séduisant comme idée. Donc c'est quelque chose qu'on voit augmenter ces dernières années. Oui.
Et ça arrive jusqu'à vous quand même, à l'aide, j'ai très mal au ventre ou je me sens pas bien, comment ça se passe?
Oui, bien sûr, on a des cas d'intoxication liés à l'utilisation... pas forcément approprié de plantes pour se soigner. On peut avoir des surdosages. C'est très difficile de savoir. Quand vous prenez un médicament, vous savez combien vous en prenez. On donne la dose par rapport à votre poids. Quand vous prenez une plante, alors vous savez, pour savoir la substance active qu'il y a dans une plante, pour savoir combien il y en a, ça dépend de où elle a poussé, ça dépend de l'espèce, ça dépend de la météo, ça dépend de la saison, ça dépend de tellement de choses que vous ne maîtrisez pas, que ensuite vous en faites une décoction, ça reste quand même extrêmement beaucoup plus difficile à doser, vous voyez. Donc oui, c'est pourvoyeur de cas d'intoxication. Déjà, vous pouvez vous tromper. En plus, vous ne maîtrisez pas tellement la dose. Donc, je ne suis pas en train de faire de la promotion pour les médicaments, mais en tout cas, c'est très...
Sur une bonne connaissance et un bon usage, en tout
exactement,
cas.
C'est-à-dire, comme toujours, ces usages naturels, ils sont très séduisants, mais ce qu'il faut vraiment, c'est connaître les plantes, connaître quelque part la nature et son environnement pour pouvoir, pour pas faire n'importe quoi.
Parce que on ne s'improvise pas phytothérapeute. Docteur Langrand, on va reparler de ces risques parfois insoupçonnés de la nature au jardin, en forêt et même à la cuisine. On aura l'expertise tout à l'heure du président de la Société française d'ethnopharmacologie, le docteur Florentin. Une promenade pour s'initier à une cueillette sans risque, cette fois avec Louise Caledec. Et puis, on ira à Conakry parler pharmacognosie avec le professeur Traoré de Conakry, donc. Programme danse juste après, le duo James BKS et Gracie Hopkins avec Panangia.
It's so hard to carry, but I'm so glad they got leaning me heavy. Thank the sky for my roots and my pedigree. All this black from my heart to this melody. All this black, but the brightness on fire, man. No complaining, that song that's empowerment. To my people, they don't have the microphone. It's my duty to rise and inspire them. Talk
focus all on our backs and it's tiring. But the strength is a thing to improve. I mean, life is like too short. Wishing I knew more. Patience is key, the thing that I do for a living. Abi Ali, riding garden bodies, scrolling Robbie on me when I jump on the tempo. Gotta know what the goal is, far from the throne. So know where you're going and where you're from.
J'y mets là de pushy. Use a burden to follow your truth. Tu n'en triomphes pas encore là. Si t'es pas sur ta voix, prends ton temps pour la trouver. Don't skip on the kick and the spin. The bass and the drum ain't the fight and the groovy. And you got it, you might have to prove it. Push, man, gotta push it. Sky never been a limit, to be honest. Les poids des blessings plus gros que la douleur. Le joy is pissed in my cooler. Check out the size of my scars. Scared I would made it this far. I got the struggle and the pain in mind. Move for ones everywhere we are. Go figure what's the going. Far from the throne, to know where you're going.
Learn where you're from.
Priorité santé sur RFI, les intoxications par les plantes, confusion, surdosage, automédication ou méconnaissance, connaître, reconnaître certains dangers de la nature. Toujours en compagnie du docteur Jérôme Langrand, chef du service du centre antipoison et de toxicovigilance de Paris. Docteur Langrand, on a parlé de certains remèdes utilisés donc en phytothérapie. Même chose pour les remèdes traditionnels. C'est vrai, quand on travaille dans un centre antipoison, on a des gens, des personnes de toute origine. Chacun arrive avec son bagage, ses savoirs, ses traditions. Ça peut arriver aussi que dans ce domaine, vous soyez confronté à des problèmes et peut-être une mise en garde par rapport à certaines substances qui peuvent présenter des dangers. Je pense par exemple pour la santé des reins.
Oui, oui, mais encore, c'est ce que c'est toujours cette difficulté de faire la part entre les bienfaits et les risques toxiques qui peuvent être réunis dans une même plante. Et donc, on a effectivement, cette difficulté-là. Un exemple nous, on a eu il y a quelque temps un remède traditionnel fait à partir de plantes qui sont de la famille des aristoloches et dont l'usage vraiment traditionnel était en cataplasme sur les morsures de serpents. Par contre, il y a eu une évolution dans la consommation et le remède traditionnel en fait est devenu autre chose avec une consommation par voie orale d'un dérivé, on va dire. Et on a fait les analyses des substances qu'il y avait dedans. Il y avait des acides aristologiques qui sont des substances qui donnent vraiment des fibroses rénales et des cancers urothéliaux, donc vraiment des cancers, on va dire des canaux du rein, quoi. Et des fibroses rénales de manière très importante. Donc il y avait un risque majeur en fait à consommer cette chose.
Ça veut dire, si on comprend bien, c'est attention, ne détournez pas ce que vous croyez être une recette, ne l'adaptez pas façon maison, parce que là on peut avoir vraiment des risques.
Ah oui, dans ce cas-là, ça a même été un peu mal reçu quand on a dit ça, parce que vous voyez, on a juste montré qu'il y avait des substances extrêmes, enfin puissamment cancérogènes et toxiques pour le rein dans un remède traditionnel que certains consomment.
C'est bien faire passer le message, vous ne condamnez pas la médecine traditionnelle, mais c'est ponctuellement ce qui s'est passé pour ce cas-là.
Ah non, mais vous savez, moi je suis comme tout le monde, hein, moi j'aime plutôt bien cette mouvance-là, hein, mais j'aimerais bien moi-même faire mes propres recettes et tout ça. Simplement, je conçois moi-même et ne pas être assez savant. On va avoir tout à l'heure des intervenants de pharmacognosie qui sont vraiment, eux, des grands connaisseurs des plantes. Bon, voilà, eux, peut-être qu'ils savent très bien faire, mais même moi, je me considère comme pas assez savant pour pouvoir le faire moi-même, vous voyez. Donc, au contraire, je trouve ça super de le faire, j'adorerais le faire, mais je me rends compte que dans un certain nombre de cas, connaît pas assez bien les plantes et pour éviter certains risques. Il y en a d'autres exemples, c'est l'aloe vera. Vous voyez, l'aloe vera, il y a plein de recettes sur comment faire utiliser votre aloe vera. Dans la paroi de l'aloe vera, il y a des anthraquinones qui sont des substances cancérogènes. Donc si vous faites pas un pré-traitement pour détoxifier le gel d'aloe vera, bah vous exposez aussi à ces substances-là et personne ne le sait.
Et on donne la parole au président de la Société française d'ethnopharmacologie. On prend la direction de l'Est, hein, Metz, en Lorraine. Docteur Jacques Florentin, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Alors vous êtes pharmacien spécialiste des médicaments à base de plantes. On disait donc c'est danger pour la santé des reins et en même temps de dire bien sûr, il n'est pas question de condamner toute une pratique, tout un savoir, loin de là. Vous avez j'imagine déjà été confronté dans votre long parcours à ces risques, à ces dangers quand on s'improvise, on va dire, phytothérapeute.
Oui, alors les deux exemples qui ont été pris sont extrêmement intéressants. Le premier, c'est effectivement en 1995, avec une plante chinoise Aristolochia fangxi, qui a été introduite dans des compléments alimentaires et qui a provoqué une trentaine de destructions des reins avec un effet cancérogène très important. C'est une des plantes les plus cancérogènes du règne végétal. Donc, une plante peut être utilisée, pour moi, quand elle est inscrite dans les pharmacopées européennes, françaises, africaines. Ça veut dire qu'on a des collègues, des experts qui ont étudié cette plante, notamment la nocivité, les risques de toxicité. Si elle est inscrite avec un usage possible, il n'y a pas de souci. Si effectivement elle ne l'est pas, ça devient très dangereux. Alors effectivement, cette aristoloche est bannie du monde entier depuis 1998 à cause de cet effet destructeur des reins. Et l'autre exemple qui est intéressant aussi, c'est l'aloe. Effectivement, c'est une plante d'une grande banalité, maintenant cultivée dans le monde entier parce que effectivement, le gel qui est à l'intérieur des feuilles a des tas de propriétés cicatrisantes, adoucissantes, antiseptiques, etc. Mais comme l'a dit Monsieur Langrand, effectivement, dans l'épiderme, il y a des anthraquinones laxatives qu'il ne faut pas utiliser si on a besoin du gel. Donc c'est une question de bonne préparation de la plante. Il faut faire une incision et prendre le gel transparent qui est à l'intérieur. Donc quand on respecte les données traditionnelles, on a effectivement des bonnes indications.
Alors, je vous coupe, oui. Docteur Florentin, parce que vous avez employé un mot et j'aimerais bien un petit éclaircissement sur le vocabulaire. Quand on dit pharmacopée, qu'est-ce que c'est? Et quand on dit pharmacognosie, de quoi s'agit-il?
Bon, pharmacognosie, c'est une discipline qui va étudier les plantes médicinales du point de vue composition, du point de vue activité, du point de vue toxicité. Maintenant, quand on parle de pharmacopée, en général, on a des pharmacopées qui ont force de loi, qui sont réglementaires. Par exemple, en France, nous avons plus de 200 plantes à la pharmacopée française qui peuvent être utilisées avec des indications thérapeutiques encadrées. Maintenant, l'Europe a pris le relais au niveau de tout l'espace européen et toutes les plantes qui sont maintenant dans la pharmacopée européenne et dont certaines comportent des techniques de contrôle et d'analyse, avec des indications thérapeutiques bien souvent encadrées, ces plantes ne posent aucun problème. Et on va même, dans cette pharmacopée officielle européenne, dans certains cas, les doses journalières seront prescrites, seront précises. Par exemple, tout le monde connaît la passiflore pour le stress, l'anxiété. Bien aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament dit les doses, c'est de 4 à 8 grammes. Alors qu'avant cela, on pouvait avoir des doses très variables entre l'Allemagne, la France, l'Italie.
Alors, des interactions aussi qui peuvent intervenir entre les traitements de phytothérapie, on a bien compris, il y a vraiment des dosages, etc., et des modes de préparation, et puis les médicaments conventionnels. Docteur Jacques Florentin, je sais que c'est assez compliqué comme question, mais est-ce que ces risques de toxicité sont connus, répertoriés? Par exemple, si quelqu'un prend un certain médicament au long cours, on imagine pour une maladie chronique, et puis qu'il s'improvise un petit peu phytothérapeute à la maison, est-ce qu'il peut y avoir des risques?
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'improvisation. Quand on a besoin de prendre un traitement à base de plantes, on va prendre conseil auprès de son pharmacien, éventuellement de son médecin, s'il a une formation. Et à ce moment-là, il pourra très bien conseiller cette plante, les posologies, les risques d'interaction avec les médicaments. En général, on ne va pas supprimer un médicament et le remplacer par un extrait de plante sans l'avis du médecin traitant, bien évidemment. Mais si on respecte toutes ces données-là, ça pose aucun problème parce que les plantes sont bien encadrées. Et je voulais encore juste rajouter que le risque qu'il y a aujourd'hui c'est que les plantes voyagent dans le monde entier. On a des plantes d'Amérique du Sud, on a des plantes chinoises, des indiennes, etc. Il faut toujours se référer au nom latin, parce que le nom français ou le nom traditionnel ne signifie pas grand-chose. Je vois que vous avez pris l'exemple du fameux laurier rose, qui est très toxique, cardiotoxique. Et effectivement, on peut avoir un arrêt cardiaque. Mais si on prend son nom latin, c'est Nerium oleander. Et là, on ne se trompe pas. On pourrait le confondre avec le laurier sauce, qui lui est utilisé comme ingrédient culinaire. Mais aussi, on fait une huile essentielle qui aura de nombreuses propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes, insecticides, etc. Et là, c'est l'Aurus nobilis.
Oui, mais excusez-moi, mais quand on regarde un jardin, on ne dit pas « il est merveilleux, votre massif de l'Aurus nobilis ».
Bien sûr.
C'est alors, plus compliqué quand même.
Exactement, on donne un nom français, mais si on veut pouvoir l'utiliser, il faut à tout prix passer avec le nom latin. Ouais. Et là, on est sûr de l'identité.
Oui, parce qu'il y a vraiment une question de connaissance, apprendre et comprendre aussi cette nature que parfois certains d'entre nous découvrent. Justement, une illustration, vous restez avec nous, docteur Florentin, toujours en ligne de Metz. L'exemple, cette expérience pour améliorer les connaissances du public.
RFI à Paris, 89 FM.
Avec cette initiative de la ferme urbaine associative Ville Fertile, située au jardin agronomique d'agronomie tropicale René Dumont au sud-est de Paris, balade d'initiation aux plantes sauvages, comestibles mais aussi, attention, toxiques. Ça se passe dans le bois de Vincennes. Et c'est là que Louis Caledec a suivi David Choran. Il est animateur bénévole le temps de l'une de ses promenades.
Vous voyez celle-ci là ? Voilà, on a l'exemple d'une plante toxique.
D'accord.
Alors, on commence par une plante toxique. Ça, c'est le Senson jacobé.
Alors moi, j'aime bien commencer mes balades toujours par une plante toxique. Alors, je sais, ça refroidit un peu, c'est bien, mais je pense que c'est l'effet que je recherche un peu tout de suite en disant, bon, bah, c'est bien, moi, je vais vous apprendre à accueillir des plantes. Je vais vous montrer que c'est possible, mais attention, enfin, on ne fait pas n'importe quoi. C'est comme quand vous allez à la cueillette aux champignons. Puis, c'est intéressant de voir aussi, il y a différents degrés de toxicité. Puis il y a des plantes qui sont toxiques dans une situation, mais qui peuvent devenir comestibles. En fait, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Quoi.
Mais par contre, ce qui va faire que vous n'allez pas vous tromper, c'est, vous voyez, le fraisier d'Inde, le fruit, il pousse vers le haut.
Ouais, alors que la fraise,
vous imaginez, c'est vers le bas.
D'accord. Voilà. D'accord.
Et puis, si vous voulez, vous risquez pas grand-chose à en goûter une, vous verrez, il n'y a pas de goût du tout. Alors qu'une fraise des bois, c'est vraiment merveilleux. Quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment...
Voilà. Souvent, quand on présente une plante comestible, s'il y a vraiment une plante très proche, on va essayer de faire la comparaison, de montrer les façons de bien distinguer la plante toxique ou la plante comestible. On va être bien différencié.
Ça, je vous présente l'IF, en fait, parce que là, on est chez les conifères. Et donc, chez les conifères, il y a la plupart des conifères, on va pouvoir les manger. C'est très intéressant avec un goût, le sapin, l'épicéa. Donc là, le sapin, ça peut ressembler vraiment au sapin. Ça pique pas. Par contre, ça, c'est un critère. Ça pique pas, c'est souple, les feuilles souples. Puis derrière, contrairement au sapin, vous n'avez pas de bande blanche. Voilà. Et puis le critère, parce que quand on cueille, il faut se servir de tous ses sens. Il faut se servir de son nez hein, quand vous cueillez. C'est-à-dire que là, si j'écrase,
ça sent rien.
C'est un conifère, mais c'est un conifère non résineux.
Je pense que là, il y a quand même un regain d'intérêt sur tout ce qui est sauvage, tout ce qui est lié à la nature, et ça c'est une bonne chose. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de balades organisées, que ce soit sur les plantes, mais aussi sur les insectes, ou, enfin bon, toutes sortes de balades naturalistes, je crois, qui ont pas mal de succès.
Regardez,
d'accord.
Bon, on le reconnaît tout de suite comme ça, parce que regardez, si vous voyez un arbre, on dirait un pied d'éléphant.
Oui. C'est vrai.
Eh ben c'est le hêtre.
Moi je m'appelle Romain, je suis ingénieur informatique à la base, puis je me suis reconverti dans la gestion environnementale avec aussi une partie gestion forestière. Voilà, je ne suis pas complètement novice, notamment sur les aspects forestiers. Après, je suis venu ici parce que sur les plantes, j'ai très peu de connaissances et très peu d'expérience et que ça m'intéresse. En fait, j'aime beaucoup me balader en forêt, donc c'est super, je trouve, de pouvoir avoir un expert qui nous raconte tout ça avec passion et qui nous donne envie d'aller encore plus se balader en forêt et de faire nos petites cueillettes et peut-être des petites recettes après. Ça m'est arrivé de cueillir des châtaignes ou même des haris d'if. En fait, il y en a pas très loin de chez moi. Je me demandais ce que c'était ce fruit et puis j'avais regardé. Il y a quelques chaînes aussi qui expliquent ça. Mais le faire en direct sur le terrain, ça a beaucoup plus de valeur et c'est beaucoup mieux pour apprendre.
Quand il y a des poils, ça vous donne déjà un critère important. Ça vous dit que vous n'avez pas affaire aux quatre plantes les plus toxiques. Mais ça ne vous garantit pas la comestibilité.
Isabelle, j'ai 64 ans et je suis enseignante à la retraite depuis cette année. Donc beaucoup de temps pour me promener dans le bois de Vincennes. En fait, j'ai surtout découvert la toxicité de certaines plantes qui paraissent tellement déjà belles. Quatre plantes, celles qui sont sous forme d'ombelles avec la grande ciguë et autres, qui peuvent être confondues avec des plantes comestibles. Je les ai beaucoup regardées sur Internet en photo. Mais là, j'ai quelques éléments supplémentaires pour les reconnaître.
À mon avis, c'est un torylis. Mais je suis pas sûr.
On va dire que c'est aussi.
Méfiance. C'est-à-dire que là, je ne consomme pas, je ne mangerai pas ça.
La règle d'or, ça va être la question de la certitude. C'est-à-dire que si vous voulez goûter et manger une plante, il faut que vous soyez absolument sûr à 200%, même 100%, ça ne suffit pas. Il faut être vraiment certain que la plante que vous mangez, c'est bien la bonne.
Pour l'ortie, en fait, vous ramassez juste les têtes. Plus on va ramasser des vieilles feuilles, plus le goût il va être fort. Hein, jusqu'à aller vers le poisson, en fait. Hein. On fait des brandades d'ortie.
Il y a, à mon avis, une transition où il faut savoir se libérer de passer de « je suis 90% sûr, donc je ne prends pas de risque » à « je suis 100% sûr, allez, c'est bon, je vais cueillir ». Et c'est pour ça que peut-être là, je me dis que 5-7 plantes, là, je suis quand même relativement... j'ai encore quelques freins, mais je vais me dire que je serai sûr et que je pourrai aller les manger. Ouais. C'est des choses que j'ai appris et que là, je vais pouvoir mettre en œuvre assez facilement, donc je suis content.
Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin.
Ça nous a nourris.
Voilà, non, vous n'avez pas goûté grand-chose là. Hein. Voilà. Voilà.
Toujours en ligne de messe, docteur Jacques Florentin, on a entendu parler de la grande ciguë. La ciguë, on connaît ce nom, ça fait un petit peu froid dans le dos, ça pousse et c'est vrai que c'est joli dans la nature, dans ce reportage de Louis Caledec. C'est vraiment dangereux ?
Ah oui, elle est mortelle, hein. C'est le fameux poison qui a été utilisé chez les Grecs, avec Socrate, etc. C'est une plante hyper dangereuse et effectivement, on pourrait confondre un petit peu son feuillage avec un feuillage de carottes sauvages, etc.
Et plante à ombelle, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pardon ?
Plante à ombelle, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, c'est la manière dont sont présentées ces fleurs. Soit on a des fleurs isolées comme la tulipe, soit on a des fleurs qui sont comme un parapluie. C'est-à-dire, c'est quelques centaines de fleurs qui sont disposées comme une ombelle, avec des petites pédoncules de fleurs, qui sont les ombelles du parapluie. Donc, c'est la forme de sa fleur.
On a une question Facebook de Sidonie de Madagascar. Elle explique dans son message que sa sœur a cuisiné des pains de farine et de riz enveloppés de feuilles cuits au bain-marie. Bon, ça se fait normalement, hein. C'est comme des petites papillotes dans des feuilles. D'habitude, à Madagascar, ces enveloppes sont des feuilles de bananier. Mais sa sœur, elle, a cueilli près de chez elle des feuilles de palm lily. Le nom savant, parce que je vous écoute, hein, professeur, docteur, c'est Cordyline fruticosa. Donc là, c'est le nom latin. Arbuste aux feuilles persistantes de la famille des Agavacées. Et après les avoir mangées, bien sa sœur s'est évanouie. On a dû l'emmener à l'hôpital. Sidonie demande si on peut se désintoxiquer rapidement après un empoisonnement avec ce type de feuilles.
Oui, alors la question déjà est de savoir si c'est la bonne espèce, parce que c'est une espèce ornementale qu'on retrouve partout dans les traditions. Mmh. Polynésie, Hawaï, Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, certaines feuilles peuvent être utilisées pour emballer l'alimentation. Mais je n'ai pas connaissance d'une toxicité chez l'homme. Par contre, c'est toxique chez le chien, notamment, avec des substances, des saponines, qui vont avoir des effets importants au niveau intestinal et gastro-entéro. Donc, le traitement, c'est très compliqué. Si on est sûr de la plante, là, effectivement, on peut des fois faire vomir, mais parfois, les vomissements font encore plus de dégâts. Ça dépend vraiment du cas. Il faut être sûr de la plante. Et là, je crois que c'est les services de notre collègue antipoison qui pourra mieux répondre à la manière de traiter.
Docteur, juste un mot, justement, parce que j'ai vu un petit peu réagir le docteur Langrand sur l'expression « faire vomir ». C'est quelque chose, en général, qui est plutôt dans les services d'urgence totalement déconseillé. Hein.
Alors, il y a des exceptions hein, où il faut le faire dans certains cas graves et il faut que ça soit fait par les urgentistes. Par contre, faites jamais ça à la maison. Dans l'immense majorité des cas, c'est plus dangereux que de pas le faire. Donc, il faut pas le faire. Mais il faut surtout pas le faire soi-même et pas le faire à la maison. Par contre, oui, il y a certains cas. En fait, les cas vraiment graves où on arrive aux urgences avec une ingestion, enfin, avec une mise en jeu du risque vital, du pronostic vital, où effectivement on va avoir une absorption prolongée des feuilles qui restent dans l'estomac, là ça vaut le coup d'aller les chercher. Donc il y a certains cas extrêmement rares où faire vomir ou aller chercher les plantes avec une fibroscopie, enfin, ça a une indication, mais maintenant c'est réservé à des cas extrêmement rares. Donc surtout, faites pas vomir vous-même les enfants ou les gens. En général, vous leur rendez pas service, vous augmentez le risque que ça passe dans les poumons. Enfin bref. Et puis parfois même vous brûlez deux fois parce que quand il y a des substances qui irritent et qui passent une fois, vous faites vomir, ça fait deux fois deux passages, ça brûle deux fois. Donc faut pas le faire soi-même, faut nous appeler et puis on vous dira quoi faire.
Docteur Jacques Florentin, on vous retrouve. Dernière question. Ce qu'on a compris avec cette question de Sidonie aussi, c'est attention aux faux amis. Hein. Qui ne se ressemblent ne se mangent pas forcément.
Exactement. Et je voudrais dire encore juste un petit mot sur le reportage que vous avez fait. C'est très important, effectivement, de former les adultes et surtout les enfants avec les plantes toxiques qui existent. Et à Metz, nous avons, Claude et Récollet, deux jardins, un des médicinales qui soigne et un des plantes toxiques. Et cette initiation, cette découverte avec les enfants, en leur enseignant la prudence des plantes qui peuvent être toxiques, est très important. D'accord. Et juste un tout petit mot aussi pour notre collègue qui en parlera sûrement plus que moi tout à l'heure, Traoré. Il y a maintenant une pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest qui a une force réglementaire. Ils ont sorti un premier ouvrage en 2013, un deuxième en 2020. Et c'est tout à fait remarquable parce que l'Afrique commence à se structurer maintenant en reconnaissant des plantes médicinales utiles et non toxiques.
Un grand merci à vous pour votre expertise, docteur Jacques Florentin. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Précisément, on prend maintenant la direction de la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Avec nous le professeur Sarr Traoré. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence agrégé en pharmacognosie et chercheur à l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée. La pharmacognosie que le professeur Florentin a définie tout à l'heure, je précise que cet entretien a été enregistré. Alors aujourd'hui, en termes de consommation, professeur Traoré, comment les populations utilisent-elles les plantes qui peuvent se révéler toxiques, plutôt pour se nourrir ou plutôt pour se soigner, se soulager ?
De façon traditionnelle, les populations africaines et au-delà même de ces populations africaines utilisent généralement les plantes pour les soins de santé primaires ou pour traiter diverses pathologies. Mais il y a parfois des événements toxiques qu'on rencontre suite à l'utilisation des plantes ou suite à une confusion de choix d'une plante médicinale.
Est-ce qu'il y a des données pour se faire un petit peu une idée de la fréquence ou de la nature de ces intoxications dans votre contexte de la Guinée?
Dans le contexte de la Guinée, il existe quelques données, mais parcellaires, qui rapportent une proportion d'intoxication due aux plantes. Et cette proportion est, selon ces données parcellaires, estimée à 7%. Ceux qui recommandent l'utilisation des plantes, ce sont les tradithérapeutes. L'arsenal thérapeutique de ces tradithérapeutes, c'est essentiellement à base de plantes. Donc nous avons mené en Guinée une enquête auprès de ces tradithérapeutes pour essayer de voir est-ce que ces acteurs de la santé ont une notion sur la toxicité des plantes. Donc nous avons rencontré 131 tradithérapeutes. Somme toute, ce sont des acteurs qui ont cité environ 53 espèces de plantes qui sont responsables d'événements toxiques, et parmi ces plantes, il y a au moins 7 qui ressortent du lot. Parmi ces plantes, c'est les daturas. Je voudrais tout de suite souligner que les daturas est une plante médicinale connue. C'est une plante de la famille des solanacées qui a apporté beaucoup de bien sur le plan médicinal. Mais depuis quelque temps, puisque c'est une plante qui est hallucinogène, on constate un accroissement de la consommation de cette plante, notamment chez les jeunes. Parmi les plantes également citées, il y a une plante qu'on appelle le mucuna. C'est une plante traditionnellement connue comme étant une plante irritative Il y a une autre plante dont les fruits sont consommés, c'est le détharium. Mais il y a quelques espèces qui sont toxiques et cette toxicité est due à des produits cyanogénétiques qu'on retrouve au niveau de certaines espèces dont les fruits sont justement toxiques.
Et précisément, quand les personnes s'intoxiquent, est-ce que c'est après être allé consulter le tradipraticien ou est-ce que c'est parce que ces personnes d'elles-mêmes s'automédiquent, vont dans la nature cueillir des plantes pour se fabriquer des traitements?
Les deux existent. Il y a des gens qui peuvent manifester des événements toxiques suite à la prise donc des plantes chez un tradithérapeute ou chez un herboriste, mais également il y a une automédication aux plantes médicinales et c'est une automédication qui est en train de monter crescendo puisque actuellement il y a bien des messages qui sont véhiculés à travers Internet où on présente des plantes comme étant des panacées. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il y a quelques années en Guinée, on a noté quelques événements toxiques puisque des gens ont recherché une plante qu'on appelle le Philanthus nuriris. Il y a eu une confusion entre le Philanthus nuriris et l'Abrus precatorius, qui est une plante qui donne des graines qui sont toxiques. Donc il y a eu des accidents mortels suite à cette confusion. Les plantes ont des vertus médicinales certaines, mais il faut qu'il y ait une utilisation contrôlée. Et cette utilisation contrôlée pourrait se faire à travers des tradithérapeutes certifiés, des phytothérapeutes certifiés. C'est le rôle justement des organisations en charge de la santé d'essayer de former et d'identifier certains tradithérapeutes en mesure de prendre en charge justement des pathologies bénignes. Mais également, dans nos pays, il y a bien d'institutions dont la vocation c'est de mener des recherches sur les plantes médicinales et les plantes alimentaires.
Alors, comment faire pour qu'il y ait une meilleure remontée des informations de la part des services hospitaliers, par exemple vers un organisme central, quand un patient vient, s'est intoxiqué, il dit ça peut arriver soit qu'il a récolté une plante, soit qu'il est allé chez un tradi, peut-être qu'il s'est trompé de dose, je ne sais pas. Et là, l'information remonte. Aujourd'hui, comment ça se passe?
Alors, les plantes ont des effets thérapeutiques. Alors, à chaque fois qu'un produit a un effet thérapeutique, il faut tout de suite se dire qu'il peut y avoir un effet bénéfice, mais également un effet risque. Donc, il est extrêmement important de développer un système de phytovigilance, un système qui permet de voir quels sont les événements indésirables qui pourraient être imputables aux différentes espèces de plantes. Et par exemple, nous, chez nous, en Guinée, c'est une activité qui pourrait être en tandem entre l'Institut national de santé publique, par exemple, et puis les institutions de recherche en charge de mener des travaux sur les plantes médicinales. Et à chaque fois qu'un patient utilise une plante et qu'il noterait un événement indésirable lié à cette utilisation, il fait directement une remontée et ça permet finalement d'enregistrer un événement indésirable, en tout cas en lien avec l'utilisation de telle plante. Par la suite, il pourrait y avoir des études approfondies pour faire la part des choses.
Un peu à l'image de la pharmacovigilance, par exemple. Dernière question, professeur Sarr Traoré. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, peut-être des mises en garde sur la notion de dosage et aussi des mises en garde sur les effets à long terme de certaines plantes. Ce n'est pas parce qu'on en prend un jour et que ça ne fait pas de mal que si on en prend tous les jours, eh bien on va dire à petit feu, ça peut être vraiment toxique.
Premier conseil qu'on pourrait donner à la population, il ne faut jamais recourir à une plante puisqu'on l'a présentée sur Internet comme étant une plante possédant des vertus thérapeutiques. Parce qu'en fait, cette longue expérience d'utilisation de la plante, en ce moment, les gens ne l'ont pas en réalité. La deuxième chose, c'est qu'on connaît des plantes et ce qu'on est en train d'évoquer généralement ici, c'est la toxicité aiguë. Il s'est avéré que même les herboristes chez nous, la notion qu'ils maîtrisent, c'est cette notion de toxicité aiguë. Or, il y a certaines plantes qui pourraient avoir des toxicités au long cours, donc il faut faire attention d'utiliser des plantes de façon non contrôlée.
Merci infiniment, professeur Sarr Traoré, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Docteur Jérôme Legrand, on vous retrouve pour la conclusion de notre échange. Tout à l'heure, votre confrère de Conakry évoquait l'effet de mode, peut-être, au sujet du datura, surdosage aussi de moringa qui ont été signalés, cette plante utilisée notamment dans la lutte contre l'anémie. Est-ce que vous constatez aussi, à votre échelle, d'autres tendances, un peu des effets de vogue, de mode? Tout à l'heure, vous avez cité l'aloe vera. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Clairement, enfin, la circonstance d'usage phytothérapeutique est à la mode, donc effectivement, ça va être une plante puis une autre, mais enfin celle que vous citez, c'est vrai, Moringa oleifera, on a eu un certain nombre de cas, parfois d'imputabilité, on ne sait pas trop si l'effet, c'est parfois difficile de mettre en évidence, d'être certain que l'intoxication est bien due à ça, mais oui, tout à fait, le datura, vous le citez, ces usages à visée thérapeutique, je ne les connais pas trop, mais par contre, usage récréatif, oui.
Du côté des ingrédients dans la cuisine, il y a un ingrédient qui est à la mode, c'est l'ail des ours, et là aussi, on signale certaines confusions.
Alors ça, c'est le problème, c'est quand vous parliez des champignons tout à l'heure, vraiment maintenant, c'est un sujet avec les plantes. Hein. On va ramasser quelque chose et on se trompe. Donc la confusion qui peut vraiment être dramatique avec l'ail des ours, c'est si vous pensez ramasser de l'ail des ours, c'est que vous ramassez de la colchique. Mmh. La colchique, ça contient de la colchicine. La colchicine, c'est une substance extrêmement dangereuse. Donc si vous mangez, si vous faites une salade avec des colchiques au lieu d'ail des ours, il y a un risque vital. Ouais. On a des décès par confusion entre colchique et des ours. Et ces confusions alimentaires, maintenant, c'est assez classique entre plein d'espèces. Donc, colchique et des ours, mais il y en a plein d'autres. Il y a les feuilles de cities aussi, quand on veut faire des beignets de fleurs d'acacia et qu'on ramasse des fleurs de cities. Enfin, voilà, il y a plein de confusions alimentaires qui sont maintenant classiques avec les plantes, ouais, qui sont à risque.
Ce qu'on a bien compris, on ne s'improvise pas botaniste. Aller demander à des personnes qui ont été formées pour conseiller et éviter de finir aux urgences donc. Merci, un grand merci docteur Jérôme Langrand d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir éclairé les auditrices et les auditeurs de Priorité Santé.
Se acabou fora Bolsonaro, se acabou fora capitão, se acabou fora Bolsonaro, se acabou fora capitão. Se acabou fora Bolsonaro, se acabou fora capitão. Se acabou fora Bolsonaro, se acabou fora capitão. Galo cantou lá na mata, deu sinal, deu. Canta a galinha, periquito e o pardal. Assum preto e asa branca já festejam. Bonita queda, cai, 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 ó capitão. E alegrando a toda bicharada, o boizinho, a burrinha e o cancão. Já tá todo mundo comemorando. Se acabou, sai pra fora, capitão. Se acabou, pô, já passou da hora. Se acabou, demorou, já demorou. Se acabou, para nunca mais voltar. Se acabou, fora, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora Bolsonaro. Se acabou, fora capitão. Se acabou, fora Bolsonaro. Se acabou, fora capitão. Pirarucu, jacaré e gaiamum vieram todos, já não falta mais nenhum. Cresce o zunido de toda a fauna, cantando junto, cai, 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 ó capitão. E até mesmo quem é da sua laia, cascavel, carcará e escorpião. Urubus e abutres também festejam. Se acabou, sai pra fora, capitão. Se acabou, hoje já passou da hora.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui a préparé votre émission. Louise Kaledek, Didier Bleu, Steven Hesley aujourd'hui avec nous et Talim Pouot. Demain dans Priorité Santé, on se retrouvera dès 9h10 temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.